Bonjour à tous et bienvenue dans 6388, l'émission qui fait le tour de la création de jeux de société. Je suis Zéphiriel et je suis bien sûr accompagné du fabuleux Théo Rivière. Bonjour à toi, comment vas-tu ?
Salut, je vais très bien. Enfin, cet épisode qu'on tease depuis le premier épisode. Et toi, tu vas bien ?
Oui, je te remercie très très bien. Je suis très content d'arriver sur cet épisode, mais je dis ça à chaque fois. Mais là, pour le coup, effectivement, comme tu le disais, on le tease depuis un petit moment. On arrive sur l'émission numéro 6, qui va être très exactement ce qu'on voulait, le contrat. Qu'est-ce qui se passe lors de la rencontre vraiment avec son éditeur, qui va devenir son éditeur, il va devenir je pense, le partenaire le plus important de la création du jeu. Je récapitule rapidement, on a une idée de proto, on a fait un proto, on l'a fait tester, on l'a amené en festival, on s'est dit que c'était bon, on l'a présenté à des éditeurs, on a démarché des éditeurs, on a un éditeur qui a dit « Ok, je suis chaud, on se rend compte, on parle du contrat », boum, on y est. Comment ça se passe? Grosso modo, en fait, je vais te laisser la parole. Voilà, on a notre éditeur, on est à notre première rencontre contrat. Alors, tu me disais dans un épisode que moi, j'imaginais vraiment la rencontre un peu formelle dans un bureau et toi, tu me disais non, ça se fait au coin d'un bar, dans un festival avec un verre de bière. C'est à peu près ça?
Ouais, c'est à peu près ça. Souvent, moi, je signe énormément par soit sur des gestionnaires de signatures en ligne, soit en signant et en renvoyant le contrat. Des fois, j'ai signé un contrat il n'y a pas longtemps, on a fait le petit tour de la poste. J'ai un co-auteur, donc l'éditeur m'a envoyé le contrat signé. Je l'ai signé en 3 exemplaires, je l'ai renvoyé à mon co-auteur, qui l'a signé, qu'on a renvoyé un mois à l'éditeur, et ça a fait le petit tour comme ça, en espérant que rien ne se passerait mal avec la poste, et rien ne s'est passé mal. Mais c'est rare qu'on se retrouve physiquement pour signer le contrat exprès.
D'accord, ok, donc tout se fait à distance. Comment, avant d'arriver à la signature du contrat, j'imagine que tu reçois un draft du contrat.
Tout à fait.
Qui va reprendre toutes les bonnes dimensions légales qu'il faut. À quoi faut s'attendre en fait avant même de recevoir le draft? J'imagine qu'on commence à parler des choses qui fâchent un tout petit peu, les droits d'auteur, les avances, les acomptes d'avance, ce genre de choses, le nombre d'exemplaires du jeu, tout ça, ça se voit en amont, j'imagine.
Ça peut arriver, ouais, effectivement, qu'on en discute, mais c'est vrai que ponctuellement, tu découvres aussi le pourcentage, l'avance, ce genre de choses directement dans le premier draft. Parce que, tu vois, si je devais résumer une discussion pas commune, parce que c'est pas commun quand même de signer un contrat et ça m'arrive pas toutes les semaines, malheureusement. Mais souvent, ça va ressembler à tu discutes un peu avec l'éditeur, il te fait des retours mécaniques, tu fais un peu ton développement qu'on a déjà évoqué, il y a un peu des allers-retours et une discussion qui se crée. Puis à un moment, tu reçois le mail qui te fait faire « Oui !» devant ton ordinateur, qui est celui qui te dit genre « Ah ben, on a refait une réunion éditoriale et ouais, en fait, on va faire le jeu parce qu'il nous plaît vraiment bien » ou « Ah ben, on s'est repenché dessus et allez, c'est parti, on va le faire. » Et généralement, toi, tu réponds un truc genre « Trop bien, je suis trop content de bosser avec vous, ça va être génial. » Et le mail d'après, t'as un premier draft de contrat pour que tu puisses en discuter à partir de là.
Ah oui, d'accord. Donc, on rentre vraiment direct dans le vif. Je pensais qu'il y aurait une première itération du OK, on va bosser ensemble. Je te propose grosso modo les conditions suivantes, tant de trucs, tant de boîtes, tant de machins. Il sortirait à telle date et tout machin. Est-ce que t'es OK? Et ensuite, on envoie le draft. Mais là, c'est vraiment, on passe à la vitesse rapide, quoi.
Ouais, c'est un peu toutes ces considérations-là, elles sont un peu directement dans ton draft et c'est là où tu les découvres et que tu les discutes. En fait, c'est vrai que l'éditeur pourrait presque faire un mail en fait avec juste ces infos-là parce qu'à ce moment-là, c'est le seul truc qui t'intéresse vraiment avant de rentrer dans les petits détails du contrat. Mais souvent, tu les découvres à la lecture. Et j'avoue que moi, quand je reçois le premier draft, le premier truc que je fais, c'est que je scrolle jusqu'à la page qui parle de la rémunération, des nombres d'exemplaires, etc. Je regarde tout ça, je zappe les autres clauses et c'est le premier truc que je regarde pour voir si on est sur un terrain d'entente d'ores et déjà ou pas encore.
Ok, passons tout de suite à cette phase-là parce qu'en vrai, on a tous les deux envie d'en parler. Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie d'en parler très rapidement et j'ai pas envie de me faire patienter plus que ça. Parlons pourcentage, acompte. Donc, pourcentage, on parle bien de royalties ou de royauté, comme tu dis.
Ouais.
Acompte sur paiement, donc l'avance que l'éditeur peut te verser. Nombre de boîtes d'exemplaires et éventuellement date de sortie. Allez, balançons des chiffres. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est la moyenne? À quoi on doit s'attendre, sur quoi on doit être déçu ou justement plutôt surpris?
Il y a déjà ce qu'il faut avoir en tête, c'est que maintenant il y a un peu deux méthodes de calcul qui cohabitent et je vais me baser sur la plus ancienne puisque c'est celle que je maîtrise le mieux puisque c'est celle qui est la plus commune.
D'accord.
Donc soit généralement on va calculer la somme d'argent que va toucher l'auteur sur le chiffre d'affaires éditeur. C'est-à-dire que la plupart des éditeurs, on l'a évoqué, un distributeur. Si on imagine un grand camembert qui ressemble à un jeu de société, qui est le prix du jeu, Il y a une partie de ce camembert qui va à la boutique, généralement autour de 50% plus les taxes. Et donc, c'est le distributeur qui a vendu la boîte de jeu ce prix-là à la boutique de jeu. Alors, je prends des chiffres qui sont variables. Hein, forcément, ça change en fonction des distributeurs,
oui,
des
bien
boutiques,
sûr, hein.
Des pas mal de petites conditions. Il faut prendre avec des pincettes. Hein, tout est forcément pas parfait à ce niveau-là. Le distributeur, lui, a pris une part de ce prix de vente, généralement autour de 30-35%. Et ensuite, reste cette part du camembert, qui est la part qui revient à l'éditeur. L'éditeur, dans cette part, c'est ce que lui, il va toucher, et puis il doit payer tous les trucs qu'il doit payer. Le coût de fabrication, l'illustrateur, ses employés, s'il y en a, lui, si jamais il se paye, et l'auteur. Et donc, la première méthode de calcul, c'est on prend cette part du camembert qui reste, et nous, on en touche un pourcentage qui est généralement de l'ordre de 8%.
Ce qui est haut, je trouve, enfin, je m'en rends pas compte, en fait, j'ai l'impression de dire c'est haut, mais ça me paraît peu en même temps, quoi.
C'est moins que le monde du livre, par exemple, où généralement on est plutôt sur des chiffres entre 8 et 10% du deuxième méthode de calcul, que je reviens juste après. Et il faut avoir en tête que ce chiffre, il est aussi assez variable. Pareil, je vous expliquerai juste après comment il varie et comment on peut le faire varier. Mais 8% est un peu la moyenne. Moi, j'ai entendu parler de contrats qui descendaient jusqu'à quelque chose comme 4. Et spoiler alert, ne les signez pas, et des contrats qui peuvent monter jusqu'à quelque chose comme 14, qui, spoiler alert, signez-les si jamais l'éditeur est fiable, parce que c'est vraiment des cool contrats. Donc ça, c'est la première méthode de calcul. La deuxième, qui a tendance à se démocratiser maintenant, c'est une méthode de calcul qui se base plutôt sur le prix public hors taxe, qu'on appelle le PPHT, qui est en gros le prix de vente du jeu moins les taxes, en fait, donc qui est plus facile à visualiser. Dans ce cas-là, on touche un pourcentage qui est forcément plus faible. Où là, j'ai pas parfaitement les chiffres, mais on va dire que c'est entre 3,2 et 4% du prix du jeu final en boutique, en fait.
La première méthode de calcul, je la connaissais pas du tout, et je suis même assez intéressé et interloqué. On a un meilleur pourcentage, mais sur un prix qui est plus bas parce que le camembert est forcément plus petit, donc le prix de vente est forcément plus petit. Okay. Et le deuxième me paraît le plus logique aujourd'hui, mais parce que j'en ai l'habitude effectivement dans le côté bouquin, en fait, du truc, c'est là où ça me paraît plus logique.
L'avantage de la méthode de calcul sur le CA éditeur, c'est que contrairement au monde du livre, on n'a pas de prix fixé par la loi. Et donc, le prix public hors taxe, c'est difficile de toujours bien le définir, de bien le calculer, alors que le chiffre d'affaires éditeur, c'est de l'argent que l'éditeur va recevoir. Et donc, pour lui, c'est très facile de se dire, j'ai gagné tant, je dois verser 8 ou 10% à l'auteur. OK, mon calcul, il est fait très, très rapidement. En fait. C'est aussi plus facile pour l'international, pour le coup, parce que l'international, il n'y a pas les mêmes marges, c'est pas la même gestion, c'est pas toujours facile. Donc là, c'est facile. Pareil, l'éditeur, il va toucher de l'argent de son distributeur international. Et puis, à partir de là, il va pouvoir faire le calcul très facilement.
D'accord. Il y a un pourcentage différent suivant les pays, suivant l'international, suivant ou pas du tout.
Alors ça, c'est un des points qu'il faut éventuellement surveiller dans le contrat. C'est est-ce que quand tu signes ton jeu avec l'éditeur, tu lui donnes les droits pour le monde entier ou pas? Typiquement, moi, c'est ce que j'ai tendance à faire parce que je suis un peu flemmard. Mais parfois, ça vaut le coup de se dire je donne les droits à un éditeur que pour un territoire donné. Alors la plupart des éditeurs ont envie d'avoir le monde entier, donc c'est des fois un point de négociation à faire. Mais c'est tout à fait possible de splitter les différents droits. Dans le cas où c'est pas fait, généralement, tu as les mêmes droits en fonction que ça soit ta boîte, elle soit vendue par leur distributeur italien ou leur distributeur français. Ou un autre pays, hein, je parle de l'Italie et de la France au hasard, mais dans n'importe quel autre pays du monde. Il y a une toute petite distinction qui existe, c'est ponctuellement, et ça doit paraître contractuellement, mais c'est presque déjà un peu trop compliqué. Vous prenez pas la tête si vous signez votre premier jeu à regarder cette question-là. Mais il y a la question de la licence, et donc un éditeur peut céder une licence à un autre éditeur pour sortir le jeu dans un pays où généralement c'est moins facile de trouver un partenaire. Et à ce moment-là, le pourcentage est calculé différemment, puisque c'est un peu comme si l'éditeur devenait l'auteur et qu'il cédait le jeu à un autre éditeur qui peut à ce moment-là le changer pas mal et le refaire un peu différemment.
Là, ça devient logique. Il faut aussi se dire, je reviens sur le côté zone territoriale, que c'est un point de levier de négociation assez intéressant, parce qu'effectivement, il faut se dire que si on donne plus de territoire à notre éditeur pour vendre le jeu, c'est un peu en sa faveur, hein, parce qu'il aura plus de parts de marché quelque part, et du coup il faut essayer de le faire tourner en sa faveur là-dessus, parce que même si c'est plus difficile, on peut éventuellement trouver un éditeur aux États-Unis ou autre comme ça, si on sait que son jeu peut marcher là-bas, par exemple.
Tout à fait.
Comme tu le disais, si on est flemmard, autant laisser faire l'éditeur, mais faut pas perdre de vue que c'est un point de levier un levier super intéressant en termes de négociation. Les acomptes, comment ça fonctionne? Tu parlais dans l'épisode d'avant que toi, tu n'acceptais plus forcément un contrat sans acompte ou au moins une petite partie d'acompte. À quoi on doit s'attendre? Alors, pas forcément en donnant des chiffres concrets, mais dans l'idée.
Je peux donner des chiffres, ça me choque pas trop de le faire parce que c'est assez commun de... Comme encore une fois, on en avait un peu parlé, mais il y a cette espèce de solidarité entre auteurs. Généralement, on en parle. Ça me choque pas d'en parler parce que vous allez voir, c'est tellement variable que ces chiffres n'ont pas forcément de sens.
D'accord.
L'idée de l'acompte, c'est de l'argent qu'on touche directement à la signature du contrat. Ponctuellement, elle peut être splittée en deux périodes. Je sais que j'ai signé des contrats où j'ai touché un acompte à la signature et un acompte soit à la remise finale du prototype. On a fini le développement, tout est fini et je retouche un petit acompte. Soit voire même à la sortie du jeu, je crois avoir vu passer ça, que j'ai pas signé d'ailleurs pour le coup, mais ça peut exister aussi. L'idée étant que c'est de l'argent qu'on va toucher donc directement et qui ne dépend pas de la sortie et des ventes du jeu, dans un premier temps. Quoi qu'il se passe, j'ai signé mon contrat, j'ai touché mon acompte, et ça c'est important de le vérifier. Si mon jeu ne sort pas, ou s'il sort pas à la date prévue, si pour une raison X ou Y, il se passe quelque chose, c'est de l'argent que j'ai de toute façon acquis et qui est pour moi quoi qu'il arrive.
Il peut y avoir des clauses qui disent que si tu rends pas le proto à une certaine date, enfin parler de manuscrit final parce que c'est comme ça dans l'édition, mais dans l'édition de bouquin en tout cas, à une certaine date, bah, en fait on peut te redemander l'acompte qui a été versé parce que bah, t'as pas respecté ta part du truc. Et attention aussi là-dessus à pas se faire avoir sur ce genre de choses.
Ouais, faut faire gaffe un peu à ça. Et après c'est quelque chose qui est important pour moi parce que c'est un bon moyen de sceller un contrat en fait. C'est aussi un moyen de payer mon loyer, donc c'est aussi un peu important.
Oui.
Mais c'est un bon moyen de sceller un contrat, de se dire bah, j'ai touché un peu d'argent, puisque je n'ai toujours pas révélé les sommes, mais c'est généralement pas beaucoup d'argent, mais j'ai touché de l'argent, l'éditeur il est un peu engagé, je sais qu'il va signer mon jeu, qu'il a signé mon jeu et qu'il va sûrement le faire d'ici pas trop longtemps.
D'accord.
Je le disais un peu, du coup cette somme elle est très variable, elle est aussi à négocier et elle dépend, mais moi j'ai signé des contrats et j'ai vu des contrats où l'acompte pouvait être entre, je crois que j'ai signé un contrat avec 100 euros d'acompte, dans un cas assez spécifique où le jeu allait sortir dans les 6 mois, c'était un éditeur que je connaissais bien et j'avais pas de souci à avoir un petit acompte pour le coup, parce que c'était un petit éditeur. J'ai entendu parler, alors pas moi, hein, mais d'acompte qui pouvait monter jusqu'à 8-10 000 euros parce que plusieurs éditeurs s'étaient battus et que c'était un très gros éditeur qui avait vraiment envie de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, la norme, elle est plutôt entre 500 et 1000 euros.
Ce qui est relativement moyen, j'ai envie de dire, mais je ne me rends pas compte effectivement des sommes qu'on touche après, suivant les ventes, sur les gros cartons ou sur des ventes complètement normales. À préciser que l'acompte, on parle réellement d'acompte, c'est-à-dire que le pourcentage en amont dont on a parlé, de 4, 8, 10% là, ne sera versé à l'auteur que lorsqu'on atteindra ce chiffre-là en acompte.
Ouais, tout à fait. L'idée, c'est que c'est exactement ça. C'est j'ai touché 1000 euros d'acompte, je reçois mon premier relevé qui me dit que l'éditeur me doit 2227,33 €. Bah, je vais toucher que 1027,33 € puisque bah, j'ai déjà 1000 euros qui m'a été versé.
Voilà. Donc, si les chiffres de vente n'atteignent absolument pas ce qu'on attendait, on peut toujours courir après le reste si besoin. Et au contraire, si ça explose, on aura vite oublié que l'acompte était soustrait des ventes. En parlant des ventes et du nombre de ventes, sur quoi on doit s'attendre? Je ne me rends pas très compte du nombre d'exemplaires qui est prévu et qu'est-ce qui est bien. Enfin, qu'est-ce qui est un chiffre où tu te dis waouh, ok, l'éditeur met le paquet, ou bah non, attends, là tu déconnes, j'ai envie de voir mon jeu plus distribué que ça. C'est quoi? C'est 3000, 4000, 6000, 10000, 100000. J'ai l'impression que les gros chiffres, en fait, on les voit très très peu.
Il y a un vrai truc, c'est qu'il y a eu un léger changement par rapport à moi quand je suis arrivé dans le milieu il y a 6 ans maintenant. C'est maintenant les gros sont très gros et les petits sont plus petits. C'est-à-dire qu'on m'avait appris un peu des chiffres en me disant bah tiens, là on est un peu content, là c'est un succès, là c'est vraiment chouette, là c'est super. Mais en fait, les gros éditeurs vont maintenant faire des tirages tels que ça fausse un peu la donne. Donc on va rester sur. L'idée, c'est que c'est des éditeurs un peu dans la moyenne pour lesquels je vais évoquer ces chiffres-là. Mais généralement, on va avoir un premier tirage pour un jeu pour le marché français qui va être entre 3 et 5 000 boîtes à peu près.
D'accord. Français francophone, disons.
Ouais, francophone, ouais, pardon, pour les Belges avec qui j'habite d'ailleurs et pour éventuellement les Canadiens, même si les Canadiens, c'est encore un peu plus bizarre. Et pour les Suisses, qu'on oublie bien trop souvent. Généralement, quand il y a un retirage, c'est déjà une assez belle preuve de succès. On n'est pas encore, on fait péter le champagne et c'est la grosse teuf. Mais si un jeu atteint 20 000 boîtes, c'est déjà vraiment, tout le monde est content, tout le monde est satisfait, c'est vraiment pas mal, quoi. On peut parler d'un beau succès à partir du moment où on dépasse les 50 000 boîtes, je pense. Moi, à 50 000 boîtes, je suis déjà vraiment refait, je me dis, cool ce jeu, il a fonctionné de ouf. Des jeux qui dépassent 100 000 exemplaires, c'est vraiment très rare et c'est des beaux succès. C'est des très beaux succès, même ça arrive peu dans la carrière d'un auteur. Et au-delà de tout ça, bon, après c'est le festival quoi. Mais sur les grosses ventes, je pense que Dixit, ils doivent être à, si je dis pas de bêtises, 5 ou 6 millions maintenant d'exemplaires vendus au total dans le monde cette fois-ci. Et si moi j'ai un tableau récapitulatif de mes chiffres, ma plus belle vente, si je la regarde, en dehors de Kaedama, donc je vais exclure Draftosaurus pour lequel j'ai pas tous les chiffres et qui doit être mon plus gros succès, c'est Sticky Chameleon chez Yellow, et on doit atteindre les 60 000 boîtes, tu vois, pour le coup.
D'accord, ce qui est assez impressionnant déjà, pour un petit jeu, enfin un petit jeu, c'est pas de péjoratif là-dedans quoi.
Ouais, t'inquiète, ce qui est considéré chez Yellow comme étant un beau succès, tout le monde est content, on est vraiment satisfait. Mais si je regarde un jeu qui a un résultat plus, je sais pas, plus modeste, bah Shinobi Wata, qui était mon premier jeu, qui est out of print maintenant, il est plus imprimé, on l'a plus, on en a vendu 7 500, et on était... pas satisfait dans le sens où, alors dans le monde, hein, encore une fois, pas satisfait dans le sens où ça n'a pas justifié de refaire un nouveau tirage, on n'a pas, le jeu n'existe plus, on n'a pas continué, mais satisfait dans le sens, ok, bah, on a vendu tout ce qu'on a produit, personne n'a perdu d'argent et c'était pas mal.
Oui, c'est ça qui est aussi difficile en tant qu'éditeur, c'est de se dire, ok, je vais m'engager sur un X boîte, disons 10 000. Je sais que si j'en vends pas au moins tant, je vais pas déjà rentrer dans mes frais et ce sera une vraie perte financière derrière. Et c'est là où on se rend pas compte du boulot de l'éditeur et du risque entre guillemets qui est pris de son côté sur ce genre de choses.
Tout à fait. Mais du coup, c'est un peu difficile d'estimer le nombre de boîtes qu'on doit s'attendre parce que chez des gros éditeurs, y a des éditeurs qui aujourd'hui peuvent tirer une boîte à 50 ou 80 000 exemplaires sur le premier tirage parce qu'ils ont des partenariats dans le monde un peu partout qui sont déjà calés, etc.
D'accord.
Donc c'est des fois un peu difficile de comparer. Et c'est vrai que moi, quand je suis passé de chez Yellow à chez RoboProd, les chiffres n'étaient pas exactement les mêmes. Donc le moment où on était satisfait, le moment où on parlait d'un succès n'était pas sur les mêmes échelles de valeur. Et j'imagine pour des encore plus petits éditeurs que Yellow, qui est déjà plutôt un assez gros, des fois on n'imagine pas les mêmes valeurs.
Est-ce qu'on a des leviers sur, en tant qu'auteur et sur la négociation du contrat, sur tout ce qui va être la date de sortie du jeu par exemple, ou est-ce que c'est trop vu en amont en disant de la part de l'éditeur, avant la signature, avant même de dire que c'est ok, en disant si je prends ton jeu, ce sera pas avant telle date, ou est-ce que tu peux essayer de l'accélérer au contrat?
Non, t'as tout à fait raison, c'est un truc qui est même primordial pour moi dans un contrat, c'est qu'il y ait une date de fin du contrat si le jeu ne sort pas. C'est-à-dire que c'est important de discuter de la date de sortie avant de signer, et c'est important qu'il y ait une espèce de date un peu bumper qui permet de se sortir d'une situation inconfortable où l'éditeur ne veut plus ou ne peut plus sortir le jeu et le repousse indéfiniment, qui m'est jamais arrivé, mais il y a beaucoup d'histoires qui sont arrivées dans cet acabit. Donc il y a un vrai truc de... L'idée, c'est de pas être psychorigide, quoi. On met pas dans le contrat le jeu sortira le 27 août 2021 et si jamais c'est pas cette date, c'est mort. Donc il y a souvent un delta de 6-8 mois dans lequel c'est acceptable parce que les jeux sont régulièrement repoussés et c'est pas parce que un jeu va dépasser sa date de sortie par rapport au contrat que j'ai signé que je vais appeler l'éditeur pour lui dire on arrête tout, c'est horrible. Parce que souvent le jeu il est en cours, mais ça permet vraiment d'avoir un bon aperçu du moment de la sortie, que ça engage encore une fois un peu l'éditeur à ce qu'il avance sur le jeu, et d'avoir une porte de sortie si jamais la situation se passe pas bien.
D'accord, il y a des possibilités de rachat de contrat de la part d'un autre éditeur. Imaginons que tu signes avec X aujourd'hui, un an après, le jeu tu vois qui prend du retard et ainsi de suite, et t'es contacté par un autre éditeur qui dit moi je peux le sortir plus rapidement. Est-ce qu'il y a des méthodes il y a des méthodes, mais est-ce que ça se fait de racheter par l'éditeur Y le contrat en disant ok, finalement on le revend?
Ça va plus passer par l'auteur, je pense. Le seul moment où nous on a vécu ça une fois avec un jeu qui devait sortir chez un éditeur et qui a pas pu le sortir pour tout un tas de raisons, et en fait on a en bonne intelligence envoyé un message à l'éditeur premier lui disant écoute, nous on voit bien que le jeu il va pas sortir, normalement le contrat il doit s'arrêter dans un an, et en fait nous ça nous embête, est-ce qu'on peut récupérer nos droits et casser le contrat tout de suite, et en plus on voit qu'il y a d'autres éditeurs qui pourraient être intéressés. L'éditeur était très chouette, donc on a récupéré nos droits sans aucun souci, et puis on a pu signer chez quelqu'un d'autre vraiment sans aucun problème, quoi. Le milieu reste assez à l'écoute et assez sympathique sur ces questions-là aussi.
Je reviens un petit peu sur ce que tu disais justement sur la date bumper et le fait de se sentir bloqué avec un éditeur. Effectivement, moi j'ai des exemples, alors sans citer parce que c'est toujours un peu délicat, mais effectivement j'ai des exemples d'auteurs qui se retrouvent parfois bloqués avec un éditeur qui sont dans une situation financière qui est un peu délicate. Tu vois, on en revient à l'épisode d'avant où on disait regarder un peu la santé financière de l'éditeur.
Ouais.
Et en fait, du coup, bah, il se retrouve bloqué avec lui. Alors, est-ce qu'il veut sortir ou pas? Est-ce qu'il y a un côté humain qui permet de continuer ou pas? Je sais pas, et c'est pas la question. Mais effectivement, voilà, faire attention à pas se retrouver bloqué ou dans une situation qui se mettrait délicate et qui signerait un peu la mort du jeu, parce que mine de rien, si le jeu sort pas parce que l'éditeur n'en veut plus, hein, pour x et y raison, il voit que finalement ça va plus marcher, il y a un concurrent qui a sorti quelque chose au mauvais moment ou n'importe quoi, et du coup bah il le garde dans sa besace avec les droits, et puis le contrat n'a pas de sortie ou trop loin, bah il faut effectivement trouver un atout juridique là-dedans, et c'est parfois un peu trop délicat.
Là c'est quelque chose d'ailleurs qui me fait rebondir sur un truc auquel on pense pas, et promis ça arrive pas tant que ça, et quand on signe un contrat, il faut le fêter, et c'est très chouette. Mais parfois, il y a des contrats qui sont rompus aussi du côté éditeur, parce que ils ont plus envie de le faire, parce qu'ils ont digéré le jeu, parce qu'il y avait du développement à faire et que ils pensaient trouver des solutions, mais ils en trouvent pas, et donc ils se retrouvent bloqués, parce que effectivement, un jeu est sorti ressemble un peu chez la concurrence, et donc c'est pas possible. Et donc tu peux te retrouver à avoir signé un jeu depuis un an, le jeu devrait sortir, t'es tout content, et puis l'éditeur il t'appelle un peu gêné pour te dire désolé, en fait, on va pas faire ton jeu et on te rend tes droits et le contrat, il est rompu et il faut reprendre les démarches, ce qui est clairement pas loin d'être le pire moment pour un auteur de jeu, je pense.
Oui, clairement, oui. Après, faut pas comme tu disais, j'imagine pas que ça arrive trop souvent non plus. Mais bon, ça permet, encore une fois, si on arrive à signer chez un éditeur et même si on a cette mauvaise nouvelle plus tard, ça veut dire que le jeu intéressait quelqu'un à un moment, donc ça permet d'un peu de rebondir au mieux, quoi.
Exactement.
Est-ce qu'on peut intégrer dans le contrat, ou est-ce que tu l'as déjà vu, des milestones de production en disant, ok, on signe, on sait que le jeu doit sortir dans un an tout pile, ça voudra dire que dans 8 mois, on doit être à ce moment-là de la prod. Est-ce que en tant qu'auteur on a ces leviers là ou est-ce que c'est pas prévu du tout et là, ça c'est l'éditeur qui s'en occupe et on peut rien faire?
Moi je l'ai jamais vu contractuellement, mais par contre j'en ai souvent parlé avec les éditeurs, c'est-à-dire ok d'accord, ton objectif c'est de le sortir à telle date, c'est quand le moment où on arrête de faire du développement parce que c'est bon, c'est quand le moment où tu trouves un illustrateur et nous on commence à valider des choses pour que les fichiers commencent à avancer et qu'on voit passer des choses. Et ça revient un peu aussi sur moi, j'aime bien être impliqué dans ce genre de choses et je cherche à travailler avec des éditeurs qui m'impliquent un peu dans ce genre de choses. Et pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Tous les gens avec qui j'ai bossé, si je posais des questions, on me répondait. Mais ça fait partie des choses auxquelles il faut un peu réfléchir aussi au moment où on signe avec un éditeur.
Je pense qu'on verra plus ça dans le prochain épisode sur la collaboration éditeur-auteur, parce qu'on a pas mal de choses à dire là-dessus. Mais effectivement, savoir à quel point tu es l'auteur est impliqué dans la production pure et dure, c'est intéressant à se noter ça.
Je te coupe juste un peu parce que ça m'invoque l'idée de milestone, m'évoque un truc que j'ai pas évoqué, mais on signe aussi régulièrement des jeux avec des droits d'auteur qui sont évolutifs, c'est-à-dire qu'on va toucher un pourcentage qui sera pas le même en fonction du nombre de ventes des jeux. C'est un bon moyen et c'est un bon vecteur de négociation quand un éditeur ne peut pas ou ne veut pas donner un pourcentage plus important dès le départ, de se dire ok, il n'y a pas de souci, on signe pas à 8% parce que 8% c'est trop pour toi et tu voudrais signer plutôt à 7, mais dans ce cas-là on signe à 7, mais dès qu'on a dépassé 20 000 boîtes je passerai à 8, et dès qu'on aura passé 50 000 boîtes je passerai à 9 ou à 10%, et avoir un pourcentage évolutif c'est vraiment moi quelque chose que j'essaye d'avoir le plus possible, parce qu'il y a un aspect si le gâteau devient un peu plus gros que prévu on se le partagera un peu, il y aura une plus grosse part pour moi et je serai content. Et le partage sera un peu réfléchi. Et aussi être dans une logique de quand un jeu arrive à un certain nombre d'exemplaires, une partie de ses coûts, notamment d'illustration et de recherche et de développement sur le matériel, ont déjà été un peu absorbés. Et donc c'est assez logique qu'il y ait moins de coûts pour l'éditeur et donc que l'auteur ait à ce moment-là un petit boost au niveau de ses droits.
Oui, complètement. Comment ça se passe au niveau co-autorat, c'est-à-dire pour le pourcentage justement, est-ce qu'il y a un split sur le contrat, est-ce qu'il y a c'est chacun son pourcentage et puis basta, est-ce qu'il y a une petite baisse du niveau du droit d'auteur?
Non, généralement c'est la même chose avec parfois les éditeurs font deux ou plus contrats séparés. Donc au lieu de signer un contrat qui dit je suis à 8%, en fait je signe un contrat à 4 et mon co-auteur, ma co-autrice signe un contrat à 4. Soit c'est un même contrat qui indique à un moment que les droits d'auteur seront répartis à 50-50 entre les différents, ou à une autre clé de pourcentage si on est plus. entre les différents auteurs et autrices du jeu.
D'accord, donc effectivement, ça peut être intéressant. Ça peut poser la question du co-autorat ou pas ? À la base, de base, quand tu crées ton proto, quand tu dis est-ce que je peux faire aider ou est-ce que machin ? Pas du tout.
Bah, ce qui est net, c'est que ça divise l'argent que tu vas gagner sur un jeu si t'es plus à bosser dessus. Typiquement, je prends l'exemple de Supercats qu'on a fait avec Grugame, où on est 5 auteurs, bah à la fin on a un pourcentage sur une boîte qui est pas très grosse, qui est assez rikiki parce que bah on est 5 auteurs, donc ce qu'on gagne sur chacune des boîtes, déjà c'est pas une somme qui est importante, même si Grugame c'est plutôt un éditeur vraiment faire sur ses contrats et donc on a plutôt un chouette contrat, mais bah divisé par 5 ça fait vraiment pas un gros pourcentage. Si la finalité d'un jeu c'est de gagner plein d'argent, et vraiment faites pas des jeux si votre finalité c'est de gagner plein d'argent parce que ça marche pas très bien, c'est mieux de le faire tout seul que de le faire en co-autant, c'est certain.
Dernière question, avant d'arriver sur déjà la fin de l'émission, est-ce qu'il y a des clauses pièges, des trucs sur lesquels il faut vraiment faire attention en disant attention, là vous, c'est complètement une session de droit du tam aeternam, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment fixer son attention avant de signer et, en tant que nouvel auteur?
Moi, les choses auxquelles je fais vraiment gaffe, du coup je vais répéter un peu des choses, mais comme ça vous avez un peu toute la to-do list, toute checklist à ce moment-là, c'est le pourcentage, qui est un élément qui est vraiment essentiel, l'avance sur royauté. Moi je fais attention parce que c'est important pour moi, c'est pas le cas pour tout le monde, mais au nombre d'exemplaires d'auteurs offerts, c'est-à-dire qu'en tant qu'auteur on va recevoir des boîtes de son jeu au moment de la sortie, et ça c'est un chiffre qui peut un peu différer. Moi je sais que j'aime bien en avoir plutôt pas mal pour pouvoir en offrir à mes co-auteurs, aux copains, à ma famille, et donc ça c'est un truc que je fais attention dans les contrats. La date de sortie, les différents territoires, et également un truc qu'on oublie un peu qui est le split éventuel des droits numériques. De plus en plus les jeux ils sont adaptés en jeux vidéo, soit sur des applis, soit sur des plateformes type Board Game Arena. Et ça, moi, je fais partie des auteurs qui l'ont vraiment pas bien fait pendant tout un temps, et j'essaye de faire plus attention maintenant. Normalement, mon conseil serait ne signez pas les droits numériques tout de suite avec l'éditeur, et si jamais le moment où ça doit arriver, ça fera l'objet d'un contrat à part. Parce qu'on ne sait pas à quoi ressemblera le jeu à ce moment-là, on ne sait pas comment auront évolué les choses, et donc c'est mieux de se dire, bah tiens, on ne signe pas tout de suite l'adaptation numérique parce que pour l'instant, elle ne va pas exister de toute façon. C'est, j'allais dire rare, mais c'est pratiquement improbable, voire impossible qu'un jeu sorte et qu'en même temps, il y ait tout de suite une adaptation numérique. Mais le moment où ça arrivera, ça sera mieux de re-avoir un contrat, de rediscuter à ce moment-là. Parce que bah, ça sera très différent.
Il y aura un recul sur le jeu, on saura déjà, on aura une meilleure idée du marché et du reste, et savoir, c'est avoir un côté. Et surtout, s'il y a une demande de le porter en jeu vidéo, enfin en adaptation numérique, ça veut dire que le jeu a une vraie mise en avant. Donc, c'est un levier à mettre de son côté.
Tout à fait. Et après, les deux autres choses que je répète assez régulièrement, sans forcément toujours les appliquer de mon côté, mais c'est pas grave. La première, c'est un éditeur, il ne vous rend jamais un service en vous proposant d'éditer votre jeu et en signant votre contrat. C'est une belle relation. À la fin, on est copains, ça se passe bien et c'est super chouette. Mais ils ne le font jamais en se disant « Ah bah tiens, je vais faire un cadeau à Théo et je vais signer son jeu ». Je les remercie quand même, et c'est toujours un beau truc, et on est très content quand on signe le contrat et c'est la fête. Mais c'est vraiment pas un cadeau, donc vous êtes pas dans une position de faiblesse où faut s'écraser parce que l'éditeur édite votre jeu. Il y a vraiment ce côté de « il l'édite parce qu'il pense que ça va marcher », ils pensent qu'eux, ils vont aussi gagner de l'argent et que leur entreprise va, leur maison d'édition va gagner de l'argent et va fonctionner grâce à ça. Mais vraiment, c'est pas un cadeau. Donc, il faut des fois sortir un peu de cette position de presque soumission de l'auteur qui dit oh, « merci beaucoup, et oui, je peux signer à n'importe quel taux et dans n'importe quelle condition parce que vous m'offrez quelque chose ». Non, vraiment, c'est pas le cas. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Et la deuxième qui est plus positive, c'est si vous signez avec un éditeur qui est un peu établi sur le marché. Je ne peux pas parler au nom des nouveaux éditeurs parce que bah, forcément, s'ils sont nouveaux, je ne les connais pas forcément. Mais globalement, personne n'essaiera de vous la mettre à l'envers. C'est important de lire le contrat, de faire attention, éventuellement de demander à d'autres auteurs plus installés. Moi, je sais que ponctuellement, je reçois des contrats par mail de jeunes auteurs qui veulent que je vérifie si tout est bien. Et souvent, tout est bien parce que bah, la plupart des éditeurs, ils sont vraiment réglo. Donc faites attention à ce que vous signez, signez pas n'importe quoi. Mais si vous signez avec quelqu'un qui a déjà sorti plusieurs jeux, mais t'avis que vraiment il essaiera pas de vous la mettre à l'envers et que son contrat il sera parfaitement réglo et que vous pouvez y aller.
Oui, comme tu l'as dit, c'est quand même un petit milieu, les gens se parlent entre eux, donc s'il y en a un qui se fait un peu avoir par un éditeur, ça va vite faire le tour et du coup bah, ça peut porter préjudice derrière.
Tout à fait, et puis les gens sont gentils aussi, quoi. Donc il y a vraiment ce côté de, à la fin, comme c'est une belle relation de confiance qui se tisse, on le voit parce qu'aussi les auteurs re-signent souvent avec les mêmes éditeurs, bah, pour que cette relation elle existe, il faut qu'elle se passe bien dès le début.
Je reviens juste sur ce que tu disais sur la relation auteur-éditeur et c'est pas un cadeau de l'éditeur que d'éditer un jeu. C'est vrai que c'est super important et je me permets d'insister dessus. C'est-à-dire que si on a un contrat, on a un contrat de partenariat, on est sur la même ligne hiérarchique. Si à un moment on se sent soumis par une hiérarchie de quelqu'un, c'est qu'on est employé par lui et du coup c'est plus un contrat d'édition, ça devient un contrat de travail et là c'est plus du tout la même chose. Donc il faut faire attention à ça et effectivement il faut être un peu fier de ce qu'on fait, il faut garder les pieds sur terre, mais il faut être quand même fier de ce qu'on amène. C'est pas du tout à l'éditeur de dicter tout, c'est même un peu parfois le contraire. C'est, on connaît son produit, on connaît son jeu, on sait ce qu'on veut, donc c'est parfois aussi à l'auteur de s'imposer, et c'est pas facile, mais il faut, je pense, parfois savoir s'imposer et dire bah non, c'est comme ça que ça doit fonctionner, c'est comme ça qu'on va avancer, parce qu'on avance ensemble, et effectivement, il faut savoir tisser cette relation très tôt et la mettre sur un pied d'égalité, comme tu le disais. Je vais pas faire un résumé de l'émission ici, parce que tu l'as très bien fait toi-même, et je t'en remercie, je pense que tu l'as mieux fait que ce que j'aurais pu faire. Donc on arrive sur la fin de cette émission, comme vous l'aurez deviné. Prochaine édition, prochain sujet, on en a aussi parlé là, ça va être la collaboration éditeur-auteur, c'est-à-dire qu'on a signé notre contrat, tout est OK, la compte est versée ou pas suivant les détails prévus au contrat, mais là on va en rentrer un petit peu dans la production, savoir comment est produit le jeu en accord avec l'auteur, comment on remet la boîte finale, le manuscrit final, et comment ça a évolué jusque-là, et surtout ça s'arrête pas là, ça s'arrête pas à la date de sortie. Il y a encore plein de choses à voir après la date de sortie sur la relation éditeur-auteur sur laquelle on va pouvoir discuter des heures et des heures.
À fond. Et clairement, là, sur le contrat, c'est aussi un gros bébé. Donc, on a abordé plein de choses dans ce long épisode et pourtant, on n'a pas tout dit. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous mettre un message et on y tâchera d'y répondre, soit dans peut-être une émission spéciale questions, si jamais on en a plein, soit moi par MP sur Twitter, avec grand plaisir.
Oh, il fait même les... Oh, t'es parfait. Tu clôtures très bien. Je te remercie. OK, on se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas, encore une fois, à nous dire ce que vous pensez de l'émission, s'il y a des choses qu'on a loupées ou vous avez des questions particulières, comme l'a très bien dit Théo. Je te remercie encore une fois de ta disponibilité, ta bonne humeur.
Avec grand plaisir, merci à toi, et puis à très bientôt.
Allez, ciao, jouez bien, éclatez-vous. Ciao.